voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Alors écoute, Jean-Guillaume, c'est simple, on est dans mon salon, on va parler ensemble un petit peu de ton histoire, de ton parcours. Tu es un ancien prof qui a quitté l'éducation nationale. Devant nous des feuilles, tu me disais que tu es en train d'écrire un petit peu sur cette expérience pour pouvoir la partager au plus grand nombre. Donc Jean-Guillaume, tu es là tout de suite avec moi dans mon salon pour l'émission radio La Voix du Kaizen. Alors, on va commencer par le début, savoir ce qui t'a amené vers l'éducation. Pourquoi est-ce que tu as choisi de devenir professeur et qu'est-ce qui a fait que tu choisisses de quitter ce métier?
Les raisons qui font que je suis devenu prof sont multiples. C'est vrai qu'il y a à la fois une raison simple, c'est que je trouvais ça tellement désagréable d'aller à l'école quand j'étais au collège que je dis moi je vais le faire et je ferai mieux. Donc il y avait une volonté de faire mieux que ce que je subissais à l'école en troisième, même s'il y avait des profs que je trouvais sympas. Puis il y avait une sorte de vocation familiale, tu vois, il y avait déjà des profs, des instits. Puis ça paraissait une voie intéressante, c'est reconnu socialement. Je me dis que ça, tu vois, il y a une envie profonde qui était là de transmettre et de partager. C'est ce qui me motivait, tu vois. Puis quand on est, quand j'étais élève en terminale, en échec scolaire, il fallait trouver une voie, tu vois. Et je sentais que j'avais envie d'enseigner, je savais pas quoi. J'étais pas du tout à ma place. J'avais fait un bac à l'époque qui était scientifique et technique, sans histoire-géographie, et je suis devenu prof d'histoire-géographie. Ce qui est étonnant, puisque j'ai pas passé le bac en terminale. Je crois que si je l'avais passé, j'aurais jamais fait prof d'histoire-géographie à cause du bac, justement. Voilà. Donc les raisons sont complexes. C'est toujours une intrication de plein de raisons, de plein de choix. J'aimais bien accompagner les enfants quand je faisais des centres de vacances. Donc je me disais, oh prof, ça a l'air sympa, on peut être payé correctement, mieux qu'en centre de vacances, tu vois. Mais au fond, je préférais les centres de vacances à avoir des élèves assis toute la journée à m'écouter.
Et donc tu te lances dans l'éducation nationale, tu deviens prof d'histoire géographie, et qu'est-ce qui fait que tu remettes tout en question pour choisir de quitter l'éducation nationale?
Ça a été assez rapide. Je crois que même l'année de stage, je commençais à me demander comment ça fonctionnait à cause des évaluations. Parce que je trouvais ça très compliqué d'évaluer et de mettre des notes. Je trouvais ça très délicat. Une fois qu'on passe de l'autre côté et qu'on doit noter des élèves, moi ça me paraissait complètement absurde. Mais je crois que le premier moment où je me suis rendu compte que ça allait pas le faire pour moi, que ça passait pas, qu'il y a un truc qui collait pas, c'est quand je me suis retrouvé avec des élèves de 5e, donc des petits enfants, tu vois, qui ont 13 ans, et puis je leur fais un contrôle, et puis je deviens méchant, tu vois. Il faut pas qu'ils se copient les uns sur les autres, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, une espèce de prise de conscience, mais qu'est-ce que je fais là, je suis en train de leur apprendre à être individualiste, compétitif, ils veulent s'aider, ils essaient de s'entraider, ils n'y arrivent pas, ok, ils n'ont pas appris, mais en fait je suis en train de faire l'inverse des valeurs profondes qui m'animent, qui étaient la solidarité, l'entraide, le soutien, et je suis en train de leur apprendre à être super individualiste dans une société qui l'est déjà et qui est hyper consommatrice. Je crois que là, ça a été vraiment le déclic. Puis après, au fur et à mesure que j'avançais, je faisais toujours des projets en parallèle dans l'école. Donc j'ai fait beaucoup de théâtre, des sorties, tout plein de projets possibles, de la vidéo, des tas de choses. Et à chaque fois, j'avais l'impression que ce qui était le plus intéressant, c'est-à-dire qu'au moment où les élèves étaient en train de faire ce qui, eux, les passionnaient et moi, me passionnait, c'était toujours secondaire. Et ce qui était principal, c'était l'évaluation permanente. Et c'était ça l'objet. C'est-à-dire que on devait produire des notes, faire des devoirs, des contrôles en permanence. Et finalement, le contenu intéressait les élèves, mais toujours sous cette contrainte d'évaluer pour sélectionner. Et je pense que c'est contre-productif. Voilà.
Tu peux revenir sur l'origine de ce système d'évaluation, le système éducatif aujourd'hui, parce que c'est un modèle qu'on pourrait qualifier d'obsolète, qui existe depuis plusieurs siècles.
Oui, alors c'est une recherche historique que j'ai menée, que d'autres ont fait avant moi. Le système d'évaluation, il est ancien, il est né avec l'industrie, au 19e siècle. Au moment où on instaure l'école républicaine, ça va de pair avec l'évaluation. Il y avait d'autres systèmes d'écoles, il y avait des écoles mutualistes, où les enfants qui avaient appris un savoir le transmettaient à plein d'autres enfants. Et ces systèmes-là transmettent bien mieux la connaissance et bien plus rapidement. Il y a plein d'autres modèles, mais on fait le choix, fin 19e, d'un modèle très hiérarchique, très organisé, qui correspond aux besoins de l'industrie, aux besoins de l'État, d'avoir des élites très sélectionnées qui sont capables d'obéir, de faire ce dont on a besoin, puis des masses qui savent à peu près lire ou être juste et suffisamment républicaines. Donc c'est un système qui a été vraiment pensé à un moment donné où on avait besoin de ça, mais il n'a pas été réformé. Et par exemple, il y a un moment clé, je pense, dans l'histoire française, c'est en mars 68 à peu près. Il y a une réforme qui est prévue par le gouvernement de l'époque, donc le gouvernement conservateur et de droite, mais une réforme qu'on appellerait aujourd'hui pédagogiste. Et elle passe à l'as, parce qu'il y a mai 68 et que ça devient ensuite un enjeu politique. C'est-à-dire que toute idée de réforme sur le long terme devient un enjeu politique. Donc les conservateurs seraient pour une pédagogie traditionnelle, type 19e siècle, et puis la gauche serait pour une pédagogie alternative, alors que c'est pas un enjeu, faut pas l'observer comme ça, c'est un enjeu de société bien plus vaste, qui devrait dépasser les clivages droite et gauche. C'est la question, c'est comment marche un enfant, comment ça apprend, et qu'est-ce qu'on veut comme individu derrière, quoi.
Comment est-ce que marche un enfant et qu'est-ce que le système d'évaluation, qu'est-ce que le système actuel d'éducation va l'impacter ?
Alors là, je vais te répondre par une expérience. Les dernières années d'enseignant, de prof, dans le lycée où je travaillais, on a décidé d'arrêter, d'expérimenter autre chose. On a voulu arrêter les notes sur 4 classes de seconde, et dans un lycée où il y avait 4 classes de seconde, donc sur toutes les classes de seconde. Et à la place, on a mis un système de compétences qui est encore une forme d'évaluation, mais plus du tout chiffré de 0 à 20, parce que la note de 0 à 20, c'est un truc typiquement français. En Europe, il y a plein d'autres façons de noter, moins arbitraire et moins absurde, j'ai envie de dire, que cette évaluation qui paraît très logique, mais qui ne l'est pas. Donc, on a fait ça, et on s'est rendu compte que certains élèves perdaient complètement leur motivation, ceux qu'on appelait les bons élèves, c'est-à-dire ceux qui avaient des notes hautes. Là, il y a une grosse confusion parce qu'on parle de bonnes et de mauvaises notes. On devrait parler de notes hautes et de notes basses. Et on a eu des profs aussi qui appréciaient pas du tout cette nouvelle façon de faire parce que il y avait plus le levier qui était la récompense de la note. Et donc, j'ai proposé à un chercheur en neurosciences qui s'appelle Daniel Favre de venir, donc dans le lycée à Münster où on travaillait. Il nous a formés en une journée à nous expliquer comment marchait la motivation. Eh bien, la note, c'est un système parasité, si tu veux. Normalement, un enfant qui a envie d'apprendre, son système de motivation est un système d'innovation. Il appelle ça un système d'innovation. C'est-à-dire que c'est basé sur l'envie, la passion. Et on fait les choses pour la chose. Et c'est ça, la récompense. Et ça se situe au niveau neuronal, dans les lobes préfrontaux. Et c'est ça qui fait qu'on a envie continuellement d'apprendre, de savoir quand on est enfant. Sauf qu'on parasite un autre système qu'un système de sécurité, avec la notation ou la punition, récompense-punition. Et qu'à partir de là, la motivation n'est que corrélée, non pas à ce qu'on fait, mais à la récompense qu'on va avoir. Et c'est ça qui est à l'œuvre dans le système scolaire et qui, pour l'instant, n'était pas... Enfin, moi, quand j'y étais, c'était pas prêt de changer. Parce que du moment où on note, on met en place ce système parasité ou biaisé qui pervertit en quelque sorte le cerveau humain, qui, à long terme, est extrêmement toxique. Puisqu'au lieu de faire des individus capables d'entendre ce qui les anime au plus profond d'eux, ce qui leur plaît, ce qui les passionne, on fait des gens qui sont tout le temps en attente qu'une autorité extérieure leur dise ce qui est bon de faire ou pas bien de faire. Donc ça fait des individus complètement malheureux au final, parce qu'ils ne peuvent pas décider par eux-mêmes ce qui est juste ou ce qui est injuste, ou ce qui est bon pour eux ou pas bon pour eux.
Comment les enfants le ressentent, le perçoivent? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans cette compétitivité et qu'ils essayent d'aller vers la bonne note pour être peut-être aimés par le prof, aimés par la famille?
Alors quand j'étais dans l'éducation sociale, quand on a fait cette expérimentation, il y avait deux réactions. Soit les élèves avaient conscience et déjà avaient été en difficulté scolaire, c'est souvent ce qui fait prendre conscience que c'est pas juste, et avec donc du recul sur la note, parce que prendre, je sais pas, recevoir 5 sur 20 et devenir un mauvais élève, c'est insupportable. Donc j'avais des élèves qui étaient en option cinéma et qui venaient exprès dans ce lycée en internat, donc ils faisaient un choix vraiment délibéré. Eux étaient ravis, parce qu'enfin, ils étaient curieux et enfin, on soutenait leur intérêt pour la matière. Et pourtant, il y avait quand même encore des évaluations avec des compétences, mais rien qu'enlever un tant soit peu cette pression de la note, ça les soulageait. Les élèves faibles, dits faibles, aussi été soulagé. Parce que c'est moins dur d'avoir j'ai raté, bon, c'est pas agréable que d'avoir 5, 3 sur 20 qui au bout d'un moment confine à l'humiliation, tu vois. On vaut la note en France, hein, l'enfant vaut sa note. Puis il y avait toute une partie d'élèves sans aucune conscience de ce qui se passait, qui attendait, qui était déjà dans le système compétitif, et c'était trop tard, j'ai envie de dire. Parce que ça commence quasiment dès la maternelle. Ce système de récompense, punition, pour eux, ça n'avait aucun sens ce qu'on faisait. Ça ne présentait pas d'intérêt, puisqu'ils étaient très adaptés au système et la compétition était devenue leur moteur. Donc on leur enlevait leur moteur pour la récompense, tu vois.
Mais est-ce que tu peux revenir sur ce modèle d'évaluation que vous avez mis en place avec l'équipe de profs, hein, c'était quoi? Donc c'était pas la note, mais c'était basé sur quoi?
Oui, bon, c'était basé sur des compétences. On avait simplifié pour pas avoir une usine à gaz. Il y avait 4 ou 5 compétences qui étaient elles-mêmes évaluées en 3-4 niveaux. Mais ça n'empêche que on restait avec une évaluation. Tout le système de l'éducation nationale français repose sur la question de l'évaluation. L'enlever, ça serait changer complètement de paradigme. Ça serait accepter qu'on a des enfants qui viennent pour apprendre et qu'on leur fait confiance dans ce qu'ils ont envie d'apprendre. Pour l'instant, on a un rapport aux enfants qui, nous, on sait, adultes, ce qui est bon pour eux. On sait comment ils doivent apprendre. On imagine qu'il faut qu'ils apprennent assis tous au même moment, dans une classe, tu vois, à la même heure, la même chose. Alors que toutes les autres expériences alternatives qui sont nombreuses, je pense par exemple à Bernard Collot, ou toutes les expériences des années 30 avec Freinet, les écoles libres, enfin l'école libre de Summerhill, et plein d'autres, parce que les années 30, les années 20-30, c'est un foisonnement d'expériences et d'alternatives dans tous les pays d'Europe, et du monde entier, j'ai envie de dire. Donc toutes ces expériences, dont les plus récentes, c'est Bernard Collot par exemple, montrent que c'est complètement inutile. Ou les expériences de déscolarisation, de unschooling, d'enfants qui ont été, comme André Stern, qui ont été accompagnés par leurs parents à la maison et qu'on a laissé jouer. Tout ça montre que le moteur de l'apprentissage n'est pas forcément corrélé à la punition ou à la récompense. On peut vraiment s'en passer et on changerait dans ce cas-là de société. Mais ça veut dire que c'est un vrai changement collectif. C'est accepter l'idée que l'enfant va apprendre ce qui lui convient. Ce qui est complètement angoissant pour la plupart des enseignants qui sont persuadés de savoir ce qu'il faut faire et à quel âge. Je vais te donner un exemple. J'ai reçu, quand j'avais des élèves de terminale, des élèves qui venaient des écoles Steiner. Et je me rappelle, donc il se reconnaîtra, un de mes élèves qui était brillant, passionné par l'histoire-géographie, et qui faisait des copies, vraiment des excellentes copies. Donc à partir de ce moment-là, je lui mettais 18. Du coup, t'es entre 18 et 20, parce que c'est quelques fautes d'orthographe, mais en termes de contenu, c'est parfait, c'est bien écrit, donc il n'y a rien à dire, quoi, tout va bien. Et je discute avec son papa, qui m'explique qu'en fait, il a appris à lire très tard. Il a appris à lire à l'école Steiner, on l'a laissé aller à son rythme, il jouait beaucoup dans la forêt, et il a appris à lire peut-être à 10 ou 12 ans, je crois. Donc ce qui, dans le système classique, aurait fait qu'il aurait été accompagné par plein d'instits pour remédier à ses difficultés, qu'on l'aurait classé en élève en difficulté, qu'on l'aurait stressé, les parents aussi, et qu'on en aurait fait un élève en difficulté. Là, résultat, entre l'âge de 12 ans et 18 ans, il a rattrapé, entre guillemets, son retard, puisqu'il n'y en avait pas. Il s'est passionné pour la lecture et il a lu énormément. Et arrivé à 18 ans, il lisait tout le temps. Et aujourd'hui, il fait des études supérieures. Et en histoire géo, il a eu 20 sur 20 au bac. Donc, ça veut dire qu'il y a un réel problème par rapport à comment on conçoit ce rapport entre enfant et adulte. Et on croit qu'on doit imposer des savoir-faire, des savoirs à certains moments, à certains âges, c'est bien plus subtil et bien plus complexe. Les enfants ont besoin d'affection et d'un cadre sécurisant pour apprendre. Toutes les études scientifiques actuelles vont dans ce sens-là, c'est le bon sens. Et quand on est dans ce cadre sécurisant et qu'on est en sécurité, enfin qu'on se sent bien, on a automatiquement envie d'apprendre. Simplement, lâcher prise sur ce que les enfants auraient envie d'apprendre, c'est un grand pas. Pour l'instant, les seuls qui le font, c'est les parents qui assument de garder leurs enfants à la maison, les écoles alternatives que j'ai envie de qualifier de libertaires, ou libres, où on laisse les enfants apprendre par eux-mêmes, mais c'est un pas énorme. C'est-à-dire qu'on va considérer l'enfant non plus comme un objet qu'on doit dresser ou remplir, mais comme quelque chose qui est comme un individu autonome, une personne authentique qui sait ce qu'elle aime, ce qu'elle a envie de vivre sur Terre, et lui laisser découvrir par elle-même et lui donner de quoi découvrir. Les enfants ont tous envie d'apprendre. Il suffit d'aller dans une classe de maternelle pour voir qu'ils ont envie d'apprendre. C'est progressivement que l'envie diminue, parce qu'on remplace cette motivation naturelle de l'enfant, et ça André Stern par exemple l'explique très bien, par ce système de récompense et de punition qui éteint les individus, et moi c'est ce que je voyais. J'avais des élèves très enthousiastes dans certaines classes, qui avaient vraiment et qui avaient une grande curiosité, mais c'est ceux qui arrivaient à peu près à s'en sortir avec les notes. Et les autres étaient tellement dégoûtés d'être tout le temps évalués qu'ils rejetaient le contenu des matières. Alors même si moi, en tant que prof d'histoire-géo, j'essayais de rendre la matière intéressante et le sujet intéressant, parce que je le pensais, donc je pouvais capter leur attention pendant quelques heures de cours, mais au final, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on tourne en rond, quoi. Et quand on regarde les études qui sont faites, en gros, comprennent PISA ou d'autres études de l'OCDE, le système scolaire français, il œuvre pour peut-être 8 à 10% des élèves, 30% grand maximum, d'une sorte d'élite qui s'auto-entretient et les autres souffrent, ils sont malheureux, ne bénéficient finalement pas d'un enseignement de qualité. Alors, je suis critique sur l'école, en même temps, le système est là, quand il n'y a pas d'école, on le regrette. Mais à mon avis, c'est plutôt l'idée de passer à autre chose qui serait nécessaire. C'est inventer un autre système et inventer autre chose, une autre façon d'apprendre. Mais c'est un enjeu qui, moi, me dépasse, qui est un enjeu collectif, parce que c'est un enjeu sociétal majeur. C'est pas, je propose, là, quand je parle de ça, c'est une réelle utopie d'une autre société. Mais si on la rêve pas et si on la dit pas, on l'aura pas. Donc il faut commencer par dénoncer ce qui dysfonctionne. Je ne remets pas en valeur la bonne volonté des enseignants. La plupart que j'ai côtoyés de mes collègues étaient des personnes de qualité qui avaient envie de bien faire, qui étaient investies. Mais à mon avis, dans un paradigme, une façon d'aborder les choses qui entretient le système dans le fait que les enfants soient soumis à une autorité et qu'au final, personne n'est heureux. Parce que les enseignants souffrent beaucoup. Même s'ils sont bien payés par rapport à la majorité des gens et qu'il y a des vacances, ceux qui sont investis souffrent beaucoup. Il y a beaucoup de burn-out d'enseignants qui sont très très investis. Et après, il y en a qui sont aigris, extrêmement désagréables, maltraitants, j'ai envie de dire, envers les élèves. Ça, c'est une réalité aussi.
Mais donc, pour avoir été prof, pour avoir été fort de cette observation, de voir comment fonctionne le système éducatif, d'avoir envie de le réformer, de le changer, est-ce que de l'intérieur, on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut faire des expériences quand on est au sein de l'éducation nationale? Ou est-ce que tu as été obligé de le quitter?
Ça, c'est une bonne question. Non, je pense qu'on peut vraiment faire plein d'expériences, mais avec des limites. C'est-à-dire qu'il y a des aujourd'hui, il y a des possibilités d'expérimenter qui sont assez fortes parce que plein d'inspecteurs, si tu veux, dans toute cette hiérarchie de l'éducation nationale, sont en attente de transformation. Mais c'est comme s'il y avait des forces antagonistes à l'intérieur. Tu vois, c'est comme s'il y avait le conflit sociétal entre une évolution vers plus de sensibilité, plus de nature. C'est un peu à l'image de la politique, où on intègre ou pas l'écologie, où on la rejette, tu vois. Et donc ces forces antagonistes sont en permanence en train de se confronter. Donc on peut expérimenter, mais toujours dans une certaine limite. Il y a quand même des choses qui sont étonnantes, c'est le nombre d'expériences qui ont été faites en 40 ans, de vraies expériences, elles sont ridicules, tu vois, c'est pas énorme. Et après, on va trouver ponctuellement des expérimentations très intéressantes. Il y a une carte de France des expérimentations qui est menée dans l'éducation nationale. Il y a une vraie richesse, il y a une vraie envie de changer de paradigme, mais on reste toujours avec le blocage qu'il faut le faire par collège, par lycée, par classe. On n'arrive pas à imaginer, comme dans les écoles libres de type Sudbury, les écoles démocratiques, de prendre les enfants, je veux dire, de 3 à 18 ans, ou voire plus, de faire des lieux réels d'apprentissage où chacun vient s'auto-former, se former, et découvrir la vie, j'ai envie de dire. Ça, on n'arrive pas à le penser dans l'éducation nationale.
Et pour terminer, j'ai envie que tu me parles de cette notion de réussite. Qu'est-ce que c'est que pour toi, réussir?
Oui, bah, je pense que c'est qu'est-ce qu'une vie réussie? Tu vois, tu prends Nelson Mandela au mi-temps de sa vie, il est en prison, qu'est-ce qu'il a réussi? Tu le prends 20 ans plus tard, il a contribué à la fin de l'apartheid. Donc c'est compliqué comme question. Est-ce que c'est une réussite par rapport à ce que la société ou les autorités attendent? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se mesurer tout à la fin de sa vie quand on a tout accompli? Moi j'ai l'impression que la réussite c'est justement cette autosatisfaction de faire ce qu'on aime et qu'on sent qu'on est à sa place et qu'on est porté par cet élan. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais qu'on sent que c'est juste et qu'on avance. Et qu'on avance à la fois dans son chemin individuel et que ça a un impact collectif majeur.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.